Ou Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 21 janvier 2016, en direct de Washington, Tatiana Mosso et Anne Albertson.
Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU attendue ce jeudi à Bujumbura. Dialogue entre le gouvernement et l'opposition et déploiement d'une force de l'Union africaine seront à l'ordre du jour.
Burundi, toujours Willy Nyamitwe, conseiller du président Pierre Nkurunziza, était dans nos studios mercredi. Dans un entretien à Nicolas Pineau, il réaffirme notamment l'opposition de Bujumbura à la présence de soldats de l'Union africaine sur son territoire. À suivre dans ce journal.
Côte d'Ivoire, l'ONU va réduire ses effectifs après les élections calmes d'octobre dernier et les améliorations sécuritaires.
Au Mozambique, le secrétaire général du principal parti d'opposition, Manuel Bissopo, dans un état grave après avoir été blessé par balle.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco, ainsi que les sports, mais d'abord le journal. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est donc attendue aujourd'hui à Bujumbura. Elle vient tenter de persuader le gouvernement d'ouvrir un dialogue avec l'opposition et d'accepter le déploiement d'une force de l'Union africaine. Morgane Guiriac.
Et c'est la deuxième visite au Burundi des 15 ambassadeurs en moins d'un an. La veille, Samantha Power, la représentante américaine à l'ONU, a déclaré que chaque jour, on entend parler d'attaques à la grenade ou de cadavres dans les rues. Pour l'ambassadeur français François Delattre, il faut avant tout éviter que le génie des violences ethniques ne sorte de sa bouteille. L'ambassadeur angolais Ismaël Gaspard Martin ajoute qu'un dialogue sérieux entre gouvernement et opposition est le seul moyen de sortir de l'impasse et mettre fin aux violations des droits de l'homme. Bujumbura ne veut pas sortir ses tambours pour accueillir ses visiteurs. Le Conseil de sécurité espère persuader le pouvoir d'accepter la proposition de l'Union africaine de déployer une force de maintien de la paix de 5000 hommes. Les autorités burundaises ont déjà rejeté l'idée en la qualifiant de force d'invasion et d'occupation. Les ambassadeurs vont rencontrer ce jeudi des dirigeants de l'opposition et de la société civile. Ils discuteront ensuite avec des responsables de l'Union africaine pendant une escale samedi à Addis Abeba.
Et en deuxième partie de cette édition, nous entendrons le point de vue sur la question de Willy Nyamitwe, conseiller du président Pierre Nkurunziza.
Effectivement. L'ONU, toujours, qui réduit les effectifs de ses casques bleus en Côte d'Ivoire, tenant compte de l'amélioration de la sécurité et du succès de l'élection présidentielle d'octobre dernier. Des détails avec Nanit Talani.
1437 casques bleus vont quitter la Côte d'Ivoire d'ici au 31 mars. L'effectif militaire de l'ONUCI va passer de 5437 à 4000 soldats, selon une résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui doit un peu satisfaire le gouvernement ivoirien qui souhaite que les casques bleus se retirent totalement fin 2017 ou début 2018. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est invité à présenter avant la fin mars des recommandations sur la poursuite de ces réductions d'effectifs et l'avenir de la mission qui compte aussi 1500 policiers. Dans sa résolution, le Conseil se félicite du succès de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015, qualifiée d'étape décisive dans la consolidation de la paix, mais a maintenu les sanctions imposées au pays, notamment un embargo sur les armes, malgré les demandes répétées du président Alassane Ouattara.
À noter la reprise ce jeudi du procès des assassins présumés du général Robert Gaye, ex-chef de la junte en Côte d'Ivoire, tué en 2002 en marge d'une tentative de coup d'État manquée.
En Guinée, ce jeudi est attendue la décision au procès devant un tribunal militaire d'officiers guinéens, dont un ancien chef d'état-major de l'armée, le général Nuhu Thiam, accusé de manquement ayant permis l'attaque le 19 juillet 2011 contre le domicile privé du président Alpha Condé.
Un ancien otage français libéré en 2013 après 3 ans de captivité au Mali a porté plainte mercredi, accusant notamment de hauts fonctionnaires français d'avoir retardé sa libération. Marc Ferré, ancien employé d'une filiale du groupe français de BTP Vinci, avait été enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique en septembre 2010 à Arlit, un site minier exploité par le groupe nucléaire français Areva au Niger. Il ne s'agit pas de la première action en justice dans ce dossier.
En Tunisie, les autorités tentent de répondre à la contestation sociale grandissante dans la région défavorisée de Kasserine, dans le centre, où le décès d'un jeune chômeur le week-end dernier a ravivé la grogne face au manque d'emploi et à la misère.
Au Mozambique, le secrétaire général de la RENAMO, principal parti d'opposition, Samuel Bisopo, a été blessé par balle dans la ville de Beira. Il est actuellement dans un état grave. Le point avec Maïli Segel.
Manuel Bisopo venait de sortir d'une conférence de presse lorsque deux voitures des forces de défense et de sécurité l'ont pris en chasse et l'ont attaqué. Son garde du corps a été tué en le protégeant. Le député Bisopo est hospitalisé en soins intensifs dans une clinique privée de Beira. Quant aux assaillants, leur identité n'est pas encore confirmée. La RENAMO est une ancienne guérilla transformée en parti politique depuis 1992. Actuellement, le pays connaît de fortes tensions entre les forces gouvernementales et l'ancien mouvement rebelle. Le leader de l'opposition, Afonso Dhlakama, refuse toujours de reconnaître les résultats des élections présidentielles et législatives d'octobre 2014. Il a récemment annoncé vouloir prendre le pouvoir en mars 2016 dans 6 provinces sur 11 par la force si nécessaire. Ces dernières semaines, les affrontements dans le centre du pays ont forcé plus de 2000 personnes à se réfugier au Malawi voisin.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La coalition militaire internationale luttant contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak veut profiter du recul des djihadistes pour supprimer ses centres de pouvoir à Raqqa et à Mossoul, ont annoncé mercredi Paris et Washington, en exhortant Moscou à rejoindre cet objectif. John Lyndon.
À l'issue de leur réunion, les ministres de la Défense des sept pays les plus engagés dans la campagne aérienne de la coalition et la formation des forces irakiennes, à savoir les États-Unis, la France, l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, se sont félicités d'avoir fait reculer l'État islamique sur le terrain et avoir affecté leurs ressources. C'est le moment d'accroître nos efforts collectifs, a plaidé le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Trois objectifs clés ont été détaillés par le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, notamment détruire le cancer de l'État islamique en supprimant ses centres de pouvoir à Raqqa et Mossoul, lutter contre les métastases de cette tumeur à travers le monde, protéger les populations chez nous. Dans cette perspective, Paris et Washington ont de nouveau appelé Moscou à concentrer ses bombardements contre l'État islamique et cesser de frapper les groupes de l'opposition armée susceptibles de participer à un règlement politique de la crise syrienne. À l'issue d'une rencontre à Zurich avec son homologue américain John Kerry, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a assuré, concernant la Syrie, que le processus diplomatique va commencer bientôt.
Et les États-Unis ont invité dans 3 semaines à Bruxelles les ministres de la Défense de 26 pays de la coalition luttant contre le groupe État islamique pour renforcer leur action, a annoncé mercredi le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter. Son homologue français Jean-Yves Le Drian a ajouté qu'une nouvelle réunion des 7 ministres réunis à Paris pourrait suivre ensuite à Londres.
Sous le feu des critiques, le Danemark, inflexible, boucle jeudi l'examen parlementaire de sa réforme du droit d'asile, ouvrant la voie à une spectaculaire mesure de confiscation et d'autres tout aussi contraires, selon ses opposants, aux conventions internationales. Craignant un effet domino, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a dénoncé en début d'année une réforme susceptible d'alimenter la peur et la xénophobie dans l'ensemble des pays d'accueil des migrants.
Publication attendue par un magistrat britannique de ses conclusions sur la mort par empoisonnement de l'ex-agent du KGB, Alexander Litvinenko, en 2006 à Londres, mettant directement en cause le Kremlin.
L'Europe et ses crises, réfugiés, attentats, institutions, et jeudi au menu du Forum économique de Davos, avec la venue dans le village suisse des premiers ministres britanniques et français, et un débat très attendu avec le grec Alexis Tsipras et le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble.
Aux États-Unis, le ministre de la Défense, Ashton Carter, a annoncé mercredi dans un communiqué que les 12 Marines portés disparus depuis le 14 janvier après un accident d'hélicoptère dans l'archipel d'Hawaï sont morts. Deux équipes de 6 Marines se trouvaient chacune dans un hélicoptère militaire près des côtes de l'île Oahu lorsque les appareils sont entrés en collision. On retrouve la Minute Éco avec Anastasie Tudiège.
Le Soudan du Sud serait sur le point de suspendre sa production de pétrole brut, dont il tire pourtant l'essentiel de ses recettes, selon le site internet Soudan Tribune. Le journal révèle que le ministre du Pétrole et des Mines sud-soudanais a estimé que l'arrêt de la production de brut était inévitable à court terme, faute d'accord avec Khartoum sur une réduction des redevances. Le Soudan du Sud a hérité de 75% des réserves pétrolières du Soudan pré-sécession depuis son indépendance, proclamée en 2011. Mais enclavé, il continue de dépendre des infrastructures soudanaises pour l'exportation. Les investissements chinois à l'étranger ont atteint en 2015 118 milliards de dollars, un chiffre record, mais inférieur aux investissements directs étrangers, aux IDE, qui se sont établis à 126,3 milliards de dollars. Les entreprises chinoises ont besoin de s'étendre hors des frontières chinoises. C'est ainsi que près de 600 fusions-acquisitions ont été menées l'année dernière pour un montant total de 40,1 milliards de dollars. La Chine encore, qui planche sur un accord de libre-échange avec les monarchies pétrolières du Conseil de coopération du Golfe. L'accord est annoncé pour avant la fin de l'année 2016. Les travaux de transformation de la baie de Cocody à Abidjan ont commencé pour un coût total compris entre 100 et 200 milliards de francs CFA. La première phase, fruit d'une coopération ivoiro-marocaine, est prévue pour 9 mois et coûtera 11 milliards de francs CFA. Elle est financée en partie par un prêt de 10 milliards de francs CFA accordé par le groupe bancaire marocain à Tijari Wafa Bank, qui compte une filiale en Côte d'Ivoire, la société ivoirienne de banque.
Et maintenant, notre page sport avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Tatiana.
CHAN 2016, le Rwanda qui joue à domicile se qualifie.
Oui, le Rwanda a battu le Gabon 2 buts à 1 hier à Kigali et se qualifie pour les quarts de finale de son championnat d'Afrique des Nations. Pour les Panthères gabonaises qui ne comptent qu'un point en deux matchs, l'avenir s'assombrit nettement. La Côte d'Ivoire de son côté a battu 1-0 le Maroc grâce à un but sur pénalty de Yannick Krayré-Zakri. À suivre ce jeudi, Cameroun, Éthiopie et Angola contre la République démocratique du Congo.
Lionel Messi devant la justice.
L'étoile du football Lionel Messi et son père seront finalement jugés pour fraude fiscale cette année, juste avant les débuts de la sélection argentine, dont il est capitaine en Copa América. Je vous rappelle que l'attaquant du FC Barcelone est mis en examen pour 3 délits de fraude fiscale depuis 2013. Il risque une condamnation à une peine de prison.
Cyclisme, 3e étape de la Tropicale Amissa-Bongo.
Le Français Adrien Petit s'impose à l'issue des 130 km entre Labarene et Ndjolé au général. Andrea Pallini est toujours en tête, l'Érythréen Tesfon Okumariam est 3e. À suivre ce jeudi, la 4e étape entre Oyem et Ambam.
Dopage, de l'aide pour la Russie.
Des experts britanniques assisteront les autorités de l'athlétisme russe menacées d'exclusion des Jeux Olympiques de Rio après les révélations de dopage et de corruption de l'Agence mondiale antidopage. C'est ce qu'a annoncé l'Agence antidopage britannique.
Tennis, Open d'Australie.
Le 2e tour, Novak Djokovic qui s'est qualifié en battant le Français Quentin Alice. 6-1, 6-2, 7-6. Ça passe également pour Roger Federer qui domine Alexandre Dolgopolov, l'Ukrainien. 6-3, 7-5, 7-6. Qualification chez les dames de Serena Williams qui domine Xu Weichei en 6-1, 6-2. Maria Sharapova qui domine Alexandra Sasnovich, la Bélarusse. 6-2, 6-1. Enfin, Tatiana, je vous laisse donner quelques résultats de NBA. Le championnat de basket nord-américain la nuit dernière.
L'Utah s'incline 111 à 118 face à New York. Boston perd aussi face à Toronto 109 à 115 points. San Francisco a totalement atomisé Chicago 125 à 94. Détroit gagne 123 à 114 face à Houston. Charlotte perd 95 à 109 face à Oklahoma. Minnesota perd aussi 94 à 106 face à Dallas. Enfin, Atlanta l'emporte 74 à 72 face à Portland. Sacramento et Los Angeles sont toujours en cours.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours dans Le Monde aujourd'hui, nous passons à nos dossiers du jour. Sur VOA Afrique, Willy Nyamitwe, conseiller du président Pierre Nkurunziza, réaffirme l'opposition de Bujumbura à la présence de 5000 soldats de l'Union africaine sur son territoire, alors que le pays traverse une crise depuis avril 2015. Une mission du Conseil de sécurité de l'ONU est en route pour le Burundi. Entre-temps, Nicolas Pinault a interviewé dans nos studios à Washington Willy Nyamitwe, qui accuse le Rwanda d'être derrière la rébellion. Écoutez-le.
Le gouvernement du Burundi a toujours été ouvert au dialogue. On n'a pas besoin d'être poussé au dialogue. On est déjà dans le dialogue. C'est notre modus operandi. C'est la politique de proximité du président Nkurunziza qui rencontre la population chaque semaine, qui rencontre les administratifs au niveau des provinces chaque mois. Donc, on n'a pas besoin d'être poussé à aller au dialogue. Concernant la force, la Maprobu, les 5000 hommes pour venir maintenir la paix au Burundi, protéger les civils, je ne sais pas pourquoi elle voudrait vraiment s'engager dans ça, si ce n'est pas un agenda caché. Si c'est une force africaine, pourquoi une ambassadrice américaine aux Nations Unies irait dire qu'elle pousse le gouvernement du Burundi à accepter 5000 hommes sur son territoire quand le peuple a déjà dit non? Est-ce que le peuple burundais a une valeur sur l'échiquier politique international?
Donc pour vous, cette force serait toujours une force d'occupation, comme l'a qualifié Bujumbura, si elle était mise en place?
Le peuple a déjà dit non, parce que le peuple a confiance en ses forces de l'ordre. Nous n'avons jamais été défaits. Les forces de l'ordre ont pu défaire toutes les attaques, ont pu protéger le pays. Nous avons connu une attaque à partir du Congo, de la RDC, ça a pris combien? 2 jours. Nous avons connu une attaque à partir du Rwanda, ça a pris 2 jours. Nous avons connu un coup d'État, ça a pris quelques heures. Les forces armées et la police burundaise sont capables de pouvoir sécuriser le territoire burundais. Donc ce n'est pas sur une terre paisible comme le Burundi qu'il faut envoyer une force de maintien de la paix, mais plutôt il faut envoyer cette force là où les gens sont en train d'être recrutés dans des camps de réfugiés, formés militairement pour former une rébellion.
Quelles sont les relations aujourd'hui entre Bujumbura et Kigali?
Les relations marchent cette fois-ci clopin-clopin à cause de ces actes d'agression qui proviennent de Kigali. Le gouvernement du Burundi a référé ce cas à la conférence internationale sur les Grands Lacs et le gouvernement du Burundi appelle les Nations Unies, l'Union africaine à s'occuper de ce cas qui dérange non seulement la paix au Burundi mais aussi...
Alors justement, certains craignent peut-être un conflit régional si la situation n'est pas réglée.
La situation doit être réglée, puisque la source du mal est connue. Avant, on le disait, personne ne nous croyait. Maintenant, le monde entier sait. Donc, est-ce que le monde, la communauté dite internationale, acceptera que la région s'embrase? Non. Au Burundi, en ce qui nous concerne, nous ferons tout pour protéger nos frontières et nos populations.
C'était Willy Nyamitwe, conseiller du président Pierre Nkurunziza, interviewé dans nos locaux ici à Washington par Nicolas Pinault. Au Congo-Brazzaville, 6 militants du mouvement contestataire Ras-le-Bol ont quitté la prison de Brazzaville dans la nuit du 19 janvier après avoir purgé une peine de 3 mois. Selon leur avocat, ils se sont acquittés chacun d'une amende de 150 000 francs CFA. Ils avaient été arrêtés en octobre et condamnés pour avoir organisé une marche contre la modification de la Constitution. Entre-temps, la nouvelle Constitution à laquelle ils s'opposaient est entrée en vigueur. Timothée Donangmaï a joint à Brazzaville Chris Freeman Bouka, membre de la coordination du mouvement citoyen Ras-le-Bol.
Cette constitution est rentrée en vigueur, bien sûr, elle a été promulguée, nous ne refusons pas, mais vous savez, cette constitution a été adoptée dans des circonstances difficiles, dans des circonstances graves. Le président de la République a mis dans les rues de Brazzaville l'armée qui tirait à balles réelles sur les populations qui manifestaient pacifiquement. Donc cette constitution a été adoptée dans des circonstances qui remettent même en cause les conditions d'une élection transparente. Pour nous, cette constitution n'existe pas. Pour nous, elle a été imposée au peuple congolais. Le peuple congolais n'a jamais voté pour cette constitution.
Qu'allez-vous faire?
Nous allons continuer à multiplier les initiatives. Nous allons continuer à dire au président de la République de laisser le pouvoir. Le président de la République a fait 2 mandats. Il doit partir, il doit se reposer, il doit organiser donc les élections transparentes avant lui, il y avait un président de la République, et après lui, il y en aura un autre. Nous allons continuer à multiplier les initiatives. Alors, quand le président de la République pacifiquement a quitté le pouvoir, nous, nous sommes contre le troisième mandat du président de la République. Nous n'accepterons jamais.
D'aucuns disent que vous faites le jeu de l'opposition dans votre rejet de la nouvelle constitution et d'un éventuel troisième mandat du président Sassou Nguesso.
Non, mais rejeter une constitution, empêcher un projet constitutionnel et une initiative citoyenne. Tout le citoyen a le droit, le devoir d'empêcher l'oppression de notre pays. Donc nous, nous avons le droit, nous avons le devoir d'empêcher les messieurs qui sont actuellement au pouvoir. Nous, nous menons une initiative citoyenne.
C'était Chris Freeman Bouka, membre du mouvement citoyen Ras-le-bol, joint par Timothée Donangmaï à Brazzaville. Au Tchad, la distribution des cartes biométriques divise les acteurs politiques représentés au cadre national de dialogue politique. Certains partis politiques de l'opposition exigent que ces cartes soient distribuées avec des kits de vérification. D'autres s'y opposent à cause du temps imparti pour cette opération. La correspondance d'André Kodmajingar.
Alors que la phase d'enrôlement des Tchadiens de deux sexes en âge de voter a pris fin, il faut procéder à la distribution des cartes biométriques aux électeurs pour leur permettre d'exercer leurs droits citoyens en avril prochain. Selon le chronogramme proposé par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, il a été prévu 20 jours pour cette activité. Par conséquent, il est pratiquement impossible de distribuer ces cartes avec kit de vérification. Dans une correspondance adressée au CNDP, cadre national de dialogue politique, la CENI a proposé la distribution de ce document sur simple présentation du récépissé. Préoccupation partagée par le président du CNDP qui a donné quitus à la CENI, semble-t-il, pour gagner du temps. Le président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République MPTR, Mbaïmon Kedmbaï Brice, estime que la décision du président du CNDP est unilatérale.
Le président du CNDP a avisé la CENI que la classe politique a donné quitus à la CENI de distribuer les cartes, alors qu'il n'en est rien. Nous lui avons adressé une correspondance pour attirer son attention que l'opposition n'est pas concernée par sa décision. Si on est confronté à un problème de délai. Nous avons proposé que les élections présidentielles soient reportées pour un an pour parfaire le fichier électoral et aller aux élections législatives et venir aux élections présidentielles après.
Le président du parti Action Socialiste Tchadienne pour le Renouveau, Haladoum Balthazar Diarman, rejette cette allégation et suggère qu'une commission paritaire soit mise sur pied afin de surveiller cette opération sur présentation du récépissé.
L'opposition est victime de sa propre turpitude dans le fait que l'opposition est représentée au même titre que la majorité au sein de la CENI et les gens n'ont pas vu le danger venir. Maintenant que le chronogramme est calé dans le temps, nous estimons que les 20 jours sont pratiquement insuffisants et cela pénalise l'opposition. Donc nous avons opté pour la distribution des cartes avec un suivi d'une commission mixte CENI parti politique pour que tous les Tchadiens, au moins qui ont eu la chance de se faire recenser, aient leurs cartes. Si c'était autre chose, on comprendrait, mais si c'est les mêmes appareils, il y a eu des défaillances. Et pour éviter une crise, il faut bien que cette commission soit là.
Le président du MPTR revient à la charge. Mbaïmon Kedmbaï Brice explique pourquoi la distribution de ces cartes avec kit de vérification est importante.
On a découvert que beaucoup de gens se sont fait inscrire sur la liste à plusieurs endroits. Maintenant, à partir du kit de vérification de distribution de cartes, mais ceux qui sont supprimés ne peuvent plus disposer de cartes. C'est ça qui garantit le fichier électoral.
Le président du CNDP mis en cause que nous avons contacté souligne qu'il va se prononcer sur cette question au moment opportun. André Kodmajingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
Cinéaste Souleymane Cissé était invité ce mercredi au micro de Mariam Traoré. Le pionnier du cinéma malien revient sur les difficultés de la promotion culturelle dans son pays, avec notamment la disparition des salles de cinéma. Il parle aussi de son dernier film, Oka, qui aborde la problématique des conflits fonciers.
Non seulement on n'a pas de salle de cinéma et aussi avec nos chaînes de télévision, on a des gros problèmes. Et tout ça, c'est une question de mentalité, vision des choses. Mais ce qui est sûr, nous produisons des films, des longs métrages, bien sûr que les jeunes peuvent voir même avec YouTube. Donc, finir, c'est vrai, la nouvelle génération, ils n'ont pas vu, mais leurs pères l'ont vu, ou leur maman, ou leur sœur, donc ils peuvent leur parler de ce film-là. Ensuite, il y a Yélène qui a été reconnue mondialement. monde et qui a permis au Mali de tirer l'échiquier mondial. On essaye à chaque fois d'évoluer, d'aller de l'avant, quoi. D'ailleurs, avec ce dernier film que nous avons réalisé, qui est passé l'année dernière à la sélection officielle de Cannes, qui s'appelle Oka, ça veut dire notre maison. C'est un film, je pense quand même que ça va beaucoup intéresser les Maliens, parce que c'est un domaine qui touche tout le monde, c'est les problèmes fonciers que chaque famille ou chaque individu a d'une manière ou d'une autre été victime de ces problèmes.
On avait appris que vous avez été victime de ce problème foncier. Qu'en est-il exactement?
Le problème, tout le temps, on avait demandé à la justice d'aller dans le fond. On a toujours voulu faire ce problème-là en référé. Et aujourd'hui, le 5 octobre dernier, la Cour suprême a annulé les référés qui nous concernaient, c'est-à-dire l'expulsion de mes soeurs. Et par conséquent, personne n'avait le droit de nous mettre dehors. Mais on l'a fait en plein jour devant tout le monde. Donc, c'est des problèmes qu'il faut poser aujourd'hui. Les solutions, on les suggère pour qu'on puisse aller vers ça, pour que l'injustice vraiment puisse s'estomper un peu. C'est trop. Ce film, je l'ai fait, c'est parce que je l'ai vécu. Je sais qu'il y a des centaines de milliers de gens qui vivent, pas seulement au Mali, mais dans le monde entier, ce phénomène. Donc, il était temps pour nous qu'on puisse en parler aujourd'hui, même si c'est un problème très délicat.
Quelle a été la réaction des autorités maliennes?
Nous a soutenu parce que nous ont permis de terminer le tournage de ce film. Le président de la République en 2013, c'est dans ça qui nous a permis de finaliser la finition et que le ministère des Domaines aussi vient de nous subventionner pour payer une partie des dettes des laboratoires. Donc tout ça, c'est pour vous dire que l'État est engagé dans ce domaine. Il ne peut plus reculer. Donc on attend tout simplement comment on va diffuser ce film.
Vous avez un appel à lancer?
J'aimerais bien que ce soit des organisations non gouvernementales et tous ceux qui peuvent soutenir vraiment la promotion de la culture puissent s'investir afin qu'on puisse vraiment diffuser largement ce film-là tout le long du Mali, quoi. Et ça, je le lance parce que je sais qu'il y a des organisations, il y a des associations. Tout ceci peut contribuer parce qu'il faut une diffusion large pour ce film. C'est un film très, 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 très sensible.
C'était le cinéaste malien Souleymane Cissé, joint à Bamako par Mariam Traoré.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le point sur la récente attaque djihadiste au Burkina Faso, mais aussi plus largement sur la menace terroriste devenue omniprésente en Afrique. Que doivent faire les pays africains pour enrayer la menace et contrecarrer les tentatives de déstabilisation par les groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul. And baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. The shell of a man that could never be his best. If I didn't have you, I'd never see the sun. You taught me how to be someone, yeah.
All my life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me. All my life, you stood by me when no one else
Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington. C'est la fin de cette édition. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.